Radio Kapi. La Précom 27, les travaux s'ouvrent ce lundi ici à Kinshasa. Plus de 64 ministres ayant en charge les questions de l'environnement et du climat venus du monde entier prennent part à ces assises qui devront donner des orientations sur les différentes thématiques qui constitueront l'agenda des débats lors de la COP 27. L'ennemi numéro un du processus électoral, c'est la méfiance entre les différents acteurs et parties prenantes. C'est ce que pense l'ancien président de la CENI, et Corneille Nangaa l'a dit dans un document publié la semaine passée. Enfin, la Précom 27 s'ouvre ce lundi ici à Kinshasa, vous le savez. Pour en parler, nous recevons dans cette édition du journal Joseph Longonza Malassi, conseiller en charge du climat du vice-premier ministre en charge de l'environnement et développement durable. Voilà tout pour le sommet. Bonjour mesdames, bonjour mademoiselles, bonjour messieurs et bienvenue dans cette édition du journal. Plus de 64 ministres ayant en charge les questions de l'environnement et du climat venus du monde entier prennent part aux assises sur la Précom 27 qui s'ouvre ce lundi 3 octobre ici à Kinshasa. Cette rencontre de 3 jours est organisée par la vice-première ministre en charge de l'environnement et du développement durable, Madame Eve Bazaïba. Elle précise que ces travaux donneront des orientations sur les différentes thématiques qui constitueront l'agenda des débats lors de la COP 27 qui se tiendra en novembre prochain à Sharm el Cheikh en Égypte. Paul Matendou.
Pendant cette rencontre, il s'agira de discuter sur des thèmes tels que l'adaptation aux impacts climatiques, la finance climat, mais aussi sur des questions relatives à la mobilisation des ressources nécessaires devant permettre au bassin du Congo de prendre une part active dans la transition énergétique pour son développement vert et la création d'emplois pour les jeunes. Selon les organisateurs, la tenue de la Précom 27 en RDC consolide son leadership environnemental au niveau continental et mondial. Cela lui permet de conclure des partenariats bilatéraux et multilatéraux dans le but de faire avancer les agendas concernant l'atténuation et l'adaptation au changement climatique. Plusieurs participants sont annoncés à ces assises, parmi lesquels plus de 64 ministres venus du monde entier ayant dans leurs attributions les questions du climat, précise le comité d'organisation. John Kerry, envoyé spécial du président américain pour le climat, va également participer à cette rencontre selon un communiqué officiel de l'ambassade des États-Unis en RDC. Cette conférence se tient après la réunion des scientifiques d'ici et d'ailleurs qui s'est tenue à Yangambi dans la province de la Tchopo au début du mois de septembre dernier.
Toujours à ce sujet, Joseph Longonza Malassi, directeur du cabinet de la vice-première ministre en charge de l'environnement et développement durable, a indiqué que les ministres réunis à Kinshasa à partir de ce lundi vont endosser la déclaration de Yangambi issue de la conférence des scientifiques de septembre dernier. Dans une interview à Radio Kapi, il ajoute que cette déclaration sera transmise à la COP 27 qui se tiendra en Égypte en novembre prochain. Joseph Longonza Malassi est au micro de Paul Matendo.
Le segment de Yangambi était une innovation de la RDC qui, étant détentrice d'un patrimoine naturel incomparable, s'est dit qu'il fallait absolument que les scientifiques entrent dans la danse. Donc les réflexions de Yangambi nous ont conduit à obtenir ce qu'on appelle la déclaration de Yangambi. Et cette déclaration va être versée dans le segment des ministres. Et les ministres vont devoir endosser la déclaration de Yangambi pour pouvoir le porter en Égypte, dans la grande conférence sur le climat, de manière à ce que les résolutions que les scientifiques ont trouvées comme étant les stratégies les meilleures pour améliorer la gouvernance et la gestion des forêts dans les bassins du Congo et aussi améliorer la finance climat dans les bassins puissent devenir une réalité.
Toujours en ce qui concerne l'environnement, notez qu'une force mixte ICCN, FRDC et la police nationale congolaise est déployée en Nzulo, dans la partie sud-ouest du parc national de Virunga. L'objectif visé pour ce déploiement est d'empêcher l'envahissement du parc dans cette partie où justement une dispute existe entre la population riveraine et le parc. Il s'agit aussi d'une réponse à la requête des dirigeants du parc qui décrit ces derniers mois l'invasion de cette aire protégée par des personnes qui se disent autochtones dans la zone. Mathieu Lunga Chambouy pour les détails.
C'est depuis le 30 septembre dernier que 125 éléments sont stationnés en Zulu. Ils doivent assurer la permanence dans le but de contrer l'envahissement des terres appartenant au parc national de Virunga Penvi en sigle et empêcher l'exercice de toute activité contraire à la conservation de la nature dans cette région du sud-ouest du parc. Cette force mixte, composée des rangers de l'ICCN, d'éléments de la police nationale congolaise et des FARDC, va jouer un grand rôle de protection de ses patrimoines dans sa partie Nzulu en territoire de Masisi. Ils vont empêcher la construction de maisons et autres ventes de parcelles, interdire les activités champêtres et l'exploitation du sable, selon le directeur adjoint du parc, Monsieur Rodrigue Mugaruka, qui s'adressait aux éléments déployés. Pour rappel, cette zone d'Nzulu constitue un endroit où des populations civiles et le parc se disputent plus d'un millier d'hectares de terres depuis maintenant plusieurs décennies. Il faut noter qu'un arrêté interdisant toutes les activités incompatibles avec la conservation de la nature en Zulu a été signé 15 septembre dernier par le gouverneur du Nord Kivu, général Ndjima Komboa Constant. Goma, Mathieu Ilunga Chambuyo Monachebe, Radio Okapi.
Pendant ce temps, ici à Kinshasa, le gouvernement congolais interdit toute poursuite des travaux de construction et autres entreprises dans des sites objets de disputes ou d'expoliation à travers les territoires nationaux. C'est entre autres la baie d'Engalima, la concession PNMLS et Sokopao ici à Kinshasa. Au cours d'une réunion présidée samedi dernier par le Premier ministre, des instructions ont été données au ministère de ces secteurs ainsi qu'à l'armée et la police pour y interdire tout accès jusqu'en nouvel ordre. C'est notamment le ministère des Affaires foncières, de l'Urbanisme et Habitat, de l'Intérieur et celui de la Défense. D'autres précisions avec Daniel Asselo, vice-premier ministre, ministre en charge de l'Intérieur, dans cet extrait que nous propose Billy Ivan Lutumba.
La question d'expoliation des espaces ou des sites bien connus, bien identifiés dans la ville de Kinshasa, mais aussi à travers la République. C'est devenu pratiquement une maladie chronique. On constate que dans la ville de Kinshasa, par exemple, il y a la baie d'Engaliema, PNMLS, Sokopao, on entend les gens parler, manifester dans la ville, parce qu'ils considèrent qu'en ayant des décisions de justice, ces espaces pourtant protégés, ces espaces sur lesquels la loi n'envisage pas qu'on puisse construire, ils sont en train de le faire. Cette situation doit s'arrêter. Il est constaté aussi que dans certains sites, on trouve la présence des hommes en uniforme qui sont en train de protéger des droits illégalement acquis. La mesure phare prise, c'est interdire l'accès à tous ces sites-là. Le travail de l'état des lieux est recommandé à nos collègues concernés pour que dans les 2 semaines qui viennent, nous puissions savoir où est-ce qu'on en est et qu'est-ce que nous devons faire en définitive.
Autre nouvelle. Dans l'est de la République démocratique du Congo, le commandement des opérations conjointes FARDC-UPDF interdit aux militaires engagés dans les opérations contre les groupes armés dans la région de Beni toute autorisation d'accès des civils à leur position. Cette mesure a été prise après avoir enregistré un cas de décès d'une femme civile dans une position militaire des FARDC dans le secteur de Rwenzori lors d'une attaque ennemie. La décision intervient à la suite de la rencontre jeudi dernier entre les généraux-majors Camille Bombele et Kanyaja Muhanga, respectivement coordonnateur et coordonnateur adjoint des opérations Shuja. Le lieutenant-colonel Mac Azukai, porte-parole des opérations conjointes, explique le bien fondé de cette mesure. Il est au micro d'André Kitting.
Cette mesure est motivée par le fait que tout le monde a été surpris de compter parmi les victimes de l'attaque de la banlieue de Bulongo, une dame civile à 6h du matin. C'est ce qui a poussé les autorités militaires, à savoir le cordon des opérations conjointe et le commandant secteur, évidemment avec le général Kahanza qui est le commandant du contingent UPDF, de prendre la mesure d'interdire l'accès aux civils des camps militaires. Vous savez, les positions militaires sont des lieux stratégiques. Ce sont des tranchées et des trous de fusiliers. Il n'est pas normal qu'on amène des civils, des enfants surtout, dans des positions comme celle-là. Voilà pourquoi cette mesure a été prise pour que nos militaires, surtout les FARDC qui combattent avec leurs homologues de l'UPDF, ne puissent pas au occasionner encore de pareils incidents. On ne peut pas empêcher quelqu'un de recevoir la visite de ses proches, mais ça doit se faire la journée et en dehors des positions militaires.
Et puis en plus bref, la Chine exhorte les groupes armés dans l'est de la RDC à immédiatement déposer les armes, indique un communiqué de l'ambassade de Chine en RDC publié hier dimanche. La Chine exprime son appui au gouvernement congolais et exhorte les groupes armés à l'est de la RDC à immédiatement déposer les armes, à respecter les appels à la paix et à participer au dialogue politique et au processus de désarmement et de démobilisation, note le communiqué. Ce communiqué est rédigé à l'occasion de l'examen du dernier rapport du secrétaire général de l'ONU sur la situation en RDC. L'ambassadeur Dai Bing, représentant permanent adjoint chinois auprès de l'ONU, a condamné l'escalade de la violence dans l'est de la RDC et a mis l'accent sur le retour de la stabilité, une priorité absolue selon lui. Mais c'est Dai a indiqué que des groupes armés tels que le M23 ont causé un grand nombre de victimes et des millions de personnes déplacées. Dai souhaite que la MONUSCO s'adapte à la situation et aux attentes du gouvernement congolais et de la population congolaise. La Chine soutient la MONUSCO à renforcer ses échanges avec le gouvernement congolais afin d'effectuer son plan de transition de manière stable, ordonnée et responsable, conclut le communiqué. À ce sujet, justement, notez que la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en RDC s'est exprimée ce week-end devant le Conseil de sécurité de l'ONU. Madame Bintou Keïta a expliqué que l'insécurité dans l'est de la RDC contribue aux violations des droits de l'homme et a amplifié une situation humanitaire déjà désastreuse, estimant à 27 millions le nombre de personnes nécessitant une aide humanitaire et pour beaucoup d'entre eux, une protection. Selon la chef de la MONUSCO, je cite, un indicateur clair de la détérioration de la situation est l'augmentation des déplacements internes depuis janvier 2022 qui a porté le nombre total de personnes déplacées à 5,5 millions, soit le record des déplacements en Afrique. Fin de citation. En ce qui concerne les élections, la chef de la MONUSCO a salué la promulgation de la loi électorale, la mise en place des cadres de concertation avec les femmes, les jeunes, les partis politiques et la société civile, ainsi que le préparatif pour le lancement de l'enregistrement des électeurs en décembre prochain. L'adoption du projet du budget en augmentation d'environ 32% par rapport à 2022 devrait aussi permettre de doter la Commission électorale nationale indépendante, CENI, des moyens nécessaires. Parlons justement de ces prochaines élections en RDC. Élections 2023, le bon et le mauvais pas au regard de l'expérience. C'est le titre d'une tribune signée la semaine dernière par Corneille Nangaa, ancien président de la Commission électorale nationale indépendante, CENI. Dans ce document de 18 pages, partagé abondamment sur Internet, l'ancien président de la centrale électorale estime que l'ennemi numéro un du processus électoral, c'est la méfiance entre les différents acteurs et parties prenantes. D'autres détails de cette tribune avec vous, Pierrot et la Mégie.
À 13 mois de l'organisation du scrutin présidentiel, Corneille Nangaa conseille d'allier l'impératif du respect du délai constitutionnel avec l'absolue nécessité des élections apaisées, c'est-à-dire libres, inclusives, transparentes et dont les résultats soient acceptés par tous. Et pour y arriver, il conseille de considérer, comme il se doit, les sujets d'attention que représentent les processus électoraux. S'agissant de la méfiance envers les processus, Corneille Nangaa estime que celle-ci est allée bien loin au-delà des acteurs politiques entre eux et de l'attitude de ces derniers vis-à-vis de la CENI. Et pour cela, il conseille d'entendre la voix de ceux qui préviennent que si l'on décide d'aller aux élections dans les conditions actuelles, on n'aura pas d'élections apaisées et il recommande d'anticiper les choses car, selon lui, les défis logistiques sont d'une ampleur plus grande qu'en 2018. Et sur ces défis logistiques, l'ancien président de la CENI loue l'utilisation de la machine à voter qui permet, selon lui, l'organisation de plusieurs scrutins directs les mêmes jours ainsi que les traitements rapides des données. Et cette machine à voter qui peut être réutilisé pour 3 cycles électoraux, ce qui permet de dégager des économies considérables. Et enfin, Corneille Nangaa préconise un minimum de consensus dans une approche inclusive, et cela dans le respect de la Constitution et des lois de la République.
Autre nouvelle, au Kwilu, l'ONG AJR, Association des jeunes responsables, a organisé samedi 1er octobre une séance d'échange avec plus de 1500 élèves du collège Kivuvu situé dans la commune de Mayoyo, à Bandunduville. C'est pour les sensibiliser contre la haine tribale qui, selon le coordonnateur de la dite structure citoyenne, a gangréné l'espace Grand Bandundu, occasionnant ainsi plusieurs morts d'hommes. À l'occasion, Maître Prosper Gata Matambu a appelé ses jeunes élèves à accepter tous les compatriotes et à se conformer à la Constitution. constitution du pays qui prévoit que tout Congolais a le droit de vivre partout où il veut au pays. Maître Gata Prosper Matambou l'a dit à Irène Mbouma.
Il était question de nous échanger avec les élèves du collège Kivu sur la haine tribale. Aujourd'hui, la haine tribale a gangréné notre société. La haine tribale a causé tant de morts. Aujourd'hui, nous vivons les atrocités qui règnent entre les peuples Teke et Yaka. Alors, nous avions voulu sensibiliser en amont les jeunes pour qu'ils comprennent que la Constitution protège les Congolais dans les articles 30 et 66. Tout Congolais est libre d'habiter sur n'importe quel sol Congolais. Tout Congolais a le devoir de respecter ses concitoyens, de les traiter avec humanisme et sans discrimination aucune. Cependant, sur terrain, nous vivons des comportements anticonstitutionnels. C'est pourquoi nous avons voulu demander à nos élèves de savoir qu'ils sont à venir de demain, ils doivent se conformer au regard de la loi. Nous leur avions rappelé que les jeunes ne peuvent pas faire l'objet de manipulation de certaines autorités, de certains politiciens qui utilisent la jeunesse en mal, à leur profit. Ils n'ont pas droit de se jeter dans les associations des malfaiteurs.
Actualité internationale.
En international, au Burkina Faso, des concertations sont toujours en cours au sein de l'armée. Trois jours après le coup d'état mené par les hommes du capitaine Ibrahim Traoré, la situation s'éclaircit un peu. L'ancien président de la transition, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sadaogo Damiba, a démissionné. Les risques d'affrontement au sein de l'armée semblent s'estomper et des discussions ont eu lieu toute la journée de dimanche au siège de l'état-major. Les négociations se sont faites en deux temps. D'abord, il a fallu éviter un affrontement entre les partisans du capitaine Traoré et ceux du lieutenant-colonel Damiba. Ce sont les chefs coutumiers et religieux qui sont intervenus. Et puis, l'ex-président de gauche, Lula, est arrivé en tête du premier tour de la présidentielle au Brésil dimanche devant le chef d'État d'extrême droite, Jair Bolsonaro. Mais son avance est moins importante que les prédisaient les sondages et un second tour aura lieu le 30 octobre prochain.
L'invité.
Nous recevons dans cette édition du journal Joseph Longonza Malassi, conseiller en charge du climat du vice-premier ministre en charge de l'environnement et développement durable. En prélude de l'ouverture de la pré-COP 27 qui s'ouvre ce lundi ici à Kinshasa et qui réunit les ministres du monde qui ont dans leurs attributions les questions du climat et leur demande de tenir compte des stratégies trouvées par les scientifiques à Yangambi pour atténuer les effets du changement climatique. Joseph Longonza Malassi s'entretient ici avec Paul Matendo. Suivez.
Joseph Longonza Malassi, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Après la conférence de Yangambi, Kinshasa accueille encore une autre réunion, toujours sur la pré-COP 27. Quelle est la particularité de celle-ci?
Celle-ci, c'est le segment des ministres qui ont en charge le changement climatique dans leurs différents pays. Et le segment de Yangambi était une innovation de la RDC, qui étant détentrice d'un patrimoine naturel incomparable, s'est dit qu'il fallait absolument que les scientifiques entrent dans la danse afin que nous puissions améliorer les stratégies et les politiques qui devront nous mener à une protection renforcée au service du peuple de nos espaces forestiers. Donc les réflexions de Yangambi nous ont conduit à obtenir ce qu'on appelle la déclaration de Yangambi. Et cette déclaration va être versée dans le segment des ministres. Et les ministres vont devoir endosser la déclaration de Yangambi pour pouvoir le porter en Égypte dans la grande conférence sur le climat, de manière à ce que les résolutions que les scientifiques ont trouvées comme étant les stratégies les meilleures pour améliorer la gouvernance et la gestion des forêts dans les bassins du Congo et aussi améliorer la finance climat dans les bassins puissent devenir une réalité.
Plusieurs résolutions issues de la réunion des scientifiques vont dans le sens d'améliorer les conditions de vie des populations riveraines. Comment les ministres vont-ils faire pour rendre opérationnelles ces recommandations?
Les ministres n'ont pas de choix parce que une chose est de constater qu'il y a changement climatique et une autre est de pouvoir mettre en œuvre les stratégies qu'il faut pour reverser la tendance du changement climatique. Il a été clairement dit que nous n'avons pas 10 000 solutions pour le changement climatique. Les solutions devraient être basées sur la nature. Et donc, cette nature, c'est notamment la forêt et les ressources renouvelables. Et même aussi, dans une certaine mesure, les ressources non renouvelables. Donc, les ministres
vont écouter les scientifiques. Parce que ce sont les scientifiques qui ont constaté le changement climatique et ce sont les scientifiques qui nous ont dit quelles étaient les stratégies pour pouvoir lutter contre le changement climatique, à savoir l'adaptation aux impacts du changement climatique et l'atténuation des émissions de gaz à effet de serre. Donc, avec l'apport de Yangambi, à travers la déclaration de Yangambi, les ministres n'auront que à pouvoir trouver les moyens politiques pour pouvoir mettre cette déclaration en œuvre. Parce que la réalité est que s'il n'y a pas suivi des résolutions, des recommandations que les scientifiques ont clairement et ensemble mises au point à Yangambi, il y a un grand risque que nous puissions aller vers des stratégies qui sont contre-productives.
Il existe ce qu'on appelle les fonds climat, mais plusieurs sources indiquent que le bassin du Congo n'en bénéficie pas. Qu'est-ce que vous pouvez recommander aux ministres qui se réunissent à Kinshasa?
Il existe plusieurs mécanismes financiers pour le climat. Mais comme vous dites, la RDC n'en bénéficie pas. Les pays du bassin du Congo n'en bénéficient pas. Il y a des études qui ont démontré que depuis la mise en place d'un certain nombre de mécanismes destinés à distribuer, si vous voulez bien, la finance climat à travers la planète dans l'objectif d'améliorer l'action climatique, eh bien les études ont prouvé que l'Afrique, de manière générale, n'en a bénéficié que d'un peu moins de 5%. Il y a des études qui parlent de 10%, de 5%. Cela varie par rapport aux sources de données. Son Excellence de la VPM a clairement dit au monde que le vrai problème qui aujourd'hui détruit, décime nos forêts et déforestera non seulement le bassin du Congo mais aussi les autres bassins tropicaux, c'est pas l'industrialisation, mais c'est l'extrême pauvreté. C'est le manque d'alternatives de vie, c'est le manque d'énergie, c'est le manque de travail pour les jeunes. Et donc, si ensemble avec nos partenaires pollueurs, nous pouvons arriver à établir un partenariat autour de l'action climatique pour améliorer ces indicateurs, eh bien, je crois qu'il est possible de pouvoir non seulement sauver les espaces forestiers résiduels dans le bassin du Congo, mais aussi de les accroître.
Joseph Longoza Malassi, merci.
Je vous remercie, monsieur le journaliste.
Voilà, mesdames et messieurs, complètement terminée cette édition du journal, mise en onde par Mimi Kindou, coordonnée et supervisée par Noëlla Luzitu Kabambi. Merci pour votre particulière attention.